Par unité d'énergie, ce feu de bois émet plus de CO2 qu'une combustion de charbon, de pétrole ou de gaz. Pourtant, pour le climat, l'utilisation de bois est souvent préférable à l'utilisation de ressources fossiles. C'est sur ce paradoxe que je vais me concentrer. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser à un seul sujet, l'impact climatique de l'utilisation du bois, parce que c'est la question centrale si on veut comprendre la place du bois dans la transition énergétique. Dans une seconde vidéo, on parlera du bois de manière beaucoup plus large. Donc inutile de commenter ici sur les nombreux points qui ne sont pas abordés. C'est volontaire. Comprendre l'impact climatique du bois est bien plus difficile que de comprendre celui des pompes à chaleur ou des voitures électriques. Commençons par la théorie en regardant comment les scientifiques font pour l'évaluer. Je m'appelle Rodolphe Meyer et vous regardez Le Réveilleur. Cette figure est produite par le CITEPA, l'organisme qui établit les inventaires de polluants et de gaz à effet de serre en France. On y voit évaluer le stock de carbone des différents compartiments forestiers. Du carbone est stocké dans les arbres vivants, dans les arbres morts, dans la litière forestière et dans les sols. L'évolution de ces stocks d'année en année dépend principalement de l'accroissement des arbres qui augmente le stock de carbone forestier et de la dégradation du bois mort, des incendies et des récoltes qui réduisent ce stock de carbone forestier. Les forêts françaises étant jeunes, elles sont en phase de croissance et on voit que l'effet net des surfaces forestières est de retirer du carbone de l'atmosphère malgré l'utilisation du bois.
Et le bois qu'on prend dans la forêt, on le compte comment ?
La quantité de carbone que contient ce bois est logiquement retirée du stock de carbone forestier. On sépare le bois entre une utilisation énergétique, où il est brûlé pour produire chaleur et ou électricité, et une utilisation comme matériau, où il finit dans des produits bois. Le bois énergie est considéré comme instantanément brûlé, et donc son carbone est ajouté à l'atmosphère. Par contre, pour les matériaux, le carbone est retiré des surfaces forestières, mais ajouté au stock de carbone que contient les produits bois. Il y restera pour une période qui dépend des objets.
C'est quoi les durées typiques ?
50 ans pour une charpente, 30 ans pour les parquets, lambris et contreplaqués, 25 ans pour les panneaux de particules et 7 ans pour le papier et le carton, notamment du fait du recyclage. Évidemment, dans le cadre de la comptabilité annuelle de tout ça, on ajoute à ce stock les nouveaux produits bois, mais on retire les anciens dont le carbone retourne à l'atmosphère. On voit qu'en France, le stock de carbone dans les produits bois est de 95 millions de tonnes de carbone, ce qui correspond à peu près aux émissions annuelles de gaz à effet de serre françaises. Autrement dit, brûler tous les produits bois existants en France doublerait les émissions de gaz à effet de serre de cette année. Si on veut augmenter ce stock, on peut faire plus de produits bois et les faire durer plus longtemps. Retiens surtout que la comptabilité du carbone associé aux forêts et à l'utilisation du bois se fait dans le secteur poétiquement nommé « utilisation des terres, changement d'affectation des terres et forêts », que je vais juste nommer « secteur des terres » dans la suite.
Donc là, on parle d'un truc comptable, un peu chiant. Et tu me dis que c'est important de retenir ça. Mais pourquoi ?
Parce que derrière ce détail technique se cache une erreur courante. En travaillant sur le bois, on croit souvent l'idée que brûler du bois serait considéré comme neutre en carbone par hypothèse. C'est faux. Cette erreur vient du fait qu'on ne compte pas les émissions de la combustion de bois dans le secteur où cette combustion a lieu. Par exemple, les émissions de la combustion de bois utilisées pour le chauffage dans le secteur résidentiel sont considérées comme nulles. Mais c'est le cas parce que ces émissions sont comptées dans le secteur des terres, au moment où le bois est prélevé en forêt et on ne va évidemment pas compter deux fois les mêmes émissions.
Je comprends que si on comptait deux fois la même chose dans deux endroits différents, on aurait plein de problèmes. Mais pourquoi on compte dans le secteur des terres plutôt qu'à l'endroit où la combustion a lieu ?
Parce que c'est plus simple et plus pratique avec les informations dont on dispose. Cette approche correspond au cadre méthodologique du GIEC. Elle est consensuelle et utilisée au niveau mondial dans la comptabilité des émissions de gaz à effet de serre. Elle est physiquement et mathématiquement cohérente. Je le répète encore une fois, la comptabilité officielle pratiquée par tous les pays dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ne considère pas la combustion de bois comme neutre en carbone par hypothèse.
Si on en revient à ta figure, on voit qu'exploiter le bois revient à sortir du carbone de la forêt. On ferait pas mieux de l'y laisser?
C'est une question primordiale et c'est elle qui va nous occuper pour une bonne partie de la vidéo. En effet, le bois est un stock de carbone et en le brûlant, on retourne ce carbone à l'atmosphère. En ne regardant que cet aspect, on pourrait conclure qu'il vaut mieux laisser le bois en forêt. Mais pour évaluer l'impact climatique du bois, il faut prendre en compte les effets de substitution. Si le chauffage au bois remplace du chauffage au gaz ou au fioul, il évite la combustion de ressources fossiles et donc des émissions de gaz à effet de serre. S'il vient remplacer des matériaux plus polluants, il évite également des émissions. Il est indispensable de prendre en compte ces effets de substitution si on veut évaluer l'impact climatique de l'utilisation du bois et faire des choix éclairés. Mais ces effets sont difficiles à estimer, notamment pour les matériaux, puisqu'il existe de nombreux produits bois différents, plusieurs alternatives pour chaque produit, et que les évaluations sur l'ensemble du cycle de vie ne sont jamais évidentes. Il y a également des difficultés méthodologiques, puisqu'évaluer ces substitutions oblige à construire des scénarios alternatifs.
Je comprends la logique, mais est-ce que c'est quantifié? Est-ce que cet effet de substitution est important?
Une étude française récente estime qu'un kilo de carbone dans du bois évite l'émission de 0,26 à 0,46 kg de carbone fossile dans le cas d'une utilisation sous forme de bois énergie. Et entre moins 0,06 et 2 kg de carbone fossile dans le cas du bois matière avec une moyenne à 0,6. À cet effet de substitution directe du bois matière s'ajoute un autre coefficient en fin de vie qui dépend de sa gestion. Si le produit en fin de vie est brûlé en remplaçant des ressources fossiles, ça augmente le coefficient de substitution du bois matière associé. On voit qu'une utilisation matière du bois permet en moyenne d'éviter davantage d'émissions qu'une utilisation directement énergétique, en plus de permettre de créer un stock de carbone dans les produits bois. Privilégier cet usage matière permet de réduire davantage les émissions et sa plus grande valeur économique permet de structurer la filière industrielle. Notons quand même que les alternatives au bois peuvent évoluer. Si nous parvenons progressivement à décarboner notre économie, ça réduit l'impact de ce que le bois peut remplacer, et donc cet effet de substitution.
Est-ce qu'on a des quantifications de ce que donne cette substitution aujourd'hui ? À l'échelle de la France, par exemple.
Tu vois ici des estimations des émissions de gaz à effet de serre des forêts et de l'utilisation de bois en France, en prenant en compte les effets de substitution. Le stockage dans la biomasse, le bois mort, la litière et les sols montrent l'augmentation moyenne de ces énormes stocks sur la période considérée. Le stockage dans les produits bois quantifie l'augmentation moyenne de ce stock. Et la substitution est une quantification des émissions évitées dans d'autres secteurs par l'utilisation du bois sous forme d'énergie et de matériaux. Un premier enseignement, c'est que ce secteur joue un rôle important dans la lutte contre le changement climatique grâce à l'absorption de carbone par les surfaces forestières et aux effets de substitution. Les forêts et l'utilisation de bois permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre françaises de manière significative. Supprimer ce secteur forêt-bois d'un claquement de doigts augmenterait les émissions annuelles d'environ un quart.
Ces quantifications sont intéressantes, mais ça ne m'aide toujours pas à savoir s'il vaut mieux utiliser le bois ou le laisser en forêt.
Sans prélèvement du bois, la masse de carbone qu'il contient serait restée en forêt. D'après l'étude dont est issue cette figure, la quantité de carbone prélevée est légèrement supérieure aux substitutions et donc à ce que les utilisations du bois ont permis d'éviter comme émissions. Il y aurait donc un léger avantage à laisser le bois en forêt. Mais on manipule des éléments entachés de trop d'incertitudes pour pouvoir trancher. En plus, on agrège ici des situations et des utilisations très différentes. Savoir ce qui est le plus efficace entre une stratégie d'exploitation forestière visant à réduire notre consommation de ressources fossiles et une stratégie de maximisation du stock de carbone en forêt ne peut sans doute s'apprécier que parcelle par parcelle. En fonction de nombreux paramètres, dont l'état de santé de la forêt, son âge, sa fertilité, à quel point l'utilisation du bois remplace des ressources fossiles et les conséquences déjà visibles du changement climatique.
Je sais très bien que le changement climatique, c'est aussi un problème pour moi et pas juste pour mes petits-enfants. Mais là, t'es en train de dire qu'on en voit déjà les conséquences sur nos forêts ?
L'étude que j'utilise ici montre même que le climat est le facteur le plus influent sur les évolutions futures du bilan carbone forestier devant les différents choix d'exploitation. Entre 2010 et 2015, les surfaces forestières françaises avaient une absorption nette supérieure à 60 millions de tonnes d'équivalent CO2. Mais ces dernières années, la captation nette sur les surfaces forestières s'est réduite du fait des sécheresses, des crises sanitaires, du ralentissement de la croissance forestière et, dans une moindre mesure, d'une hausse des prélèvements de bois. Cette figure s'arrête en 2019, mais les dernières années montrent la même chose pour ce qui est de l'affaiblissement de l'absorption de carbone par les forêts. Le changement climatique a donc déjà des conséquences. Et vous avez peut-être été témoin du stress subi par certaines forêts lors d'étés particulièrement secs.
Donc quand je fais des randonnées en août et que je vois des arbres en train de perdre leurs feuilles, je suis en train de les voir souffrir, voire mourir.
Oui, l'augmentation des températures maximales, l'évolution des précipitations et la répétition des sécheresses augmentent déjà la mortalité de nombreuses espèces et les aires de répartition évoluent. Le changement climatique entraîne aussi l'évolution des écosystèmes et des aires de répartition de certaines espèces animales qui rendent des peuplements plus vulnérables à des attaques d'insectes comme les scolytes ou à des maladies comme la calarose.
Ça m'amène une réflexion. À cause du changement climatique et des trucs que tu as mentionnés, une partie du carbone aujourd'hui stocké dans les forêts pourrait se retrouver dans l'atmosphère.
Effectivement, les stocks de carbone dans les surfaces forestières sont fragiles. Une augmentation de la mortalité ou des incendies peuvent les réduire brutalement. C'est une différence fondamentale avec les stocks géologiques. Le charbon qui n'est pas extrait du sous-sol y restera coincé sur des périodes extrêmement longues. Mais on n'a aucune garantie de long terme pour le stock de carbone forestier. Les épisodes de mortalité observés laissent aussi penser que la filière d'exploitation du bois devra s'y adapter. Par exemple, en augmentant les prélèvements, les années de mortalité accrues par incendies, tempêtes, sécheresses, insectes ou maladies. La succession de chocs qui s'annonce peut transformer une exploitation relativement continue en une exploitation en réaction à ces chocs, ce qui est un défi logistique.
Et sur le long terme, on a une idée des conséquences du changement climatique ? Nos forêts, est-ce qu'elles vont tenir le coup ?
Des modèles montrent que des espèces typiques des forêts françaises vont voir leurs aires de répartition se réduire considérablement. Le site Climescence montre par exemple que le hêtre commun voit son aire de répartition se réduire avec l'augmentation de la température moyenne en France. D'autres espèces comme le chêne rouvre, le chêne pédonculé, l'épicéa et le sapin sont également particulièrement affectées. Et je parle ici des 5 espèces les plus communes en volume dans nos forêts. Mais ces modèles sont critiqués et incertains. Ils reposent sur la projection dans l'avenir de corrélations observées aujourd'hui et ne prennent pas en compte certains mécanismes d'adaptation des écosystèmes forestiers. Si les dommages du changement climatique sont déjà visibles, il y a d'importantes incertitudes sur les conséquences futures et donc sur les stratégies d'adaptation à mettre en place. Mais je vous parlerai de l'évolution des pratiques forestières dans la prochaine vidéo parce qu'il faut prendre en compte des éléments que je ne vais pas développer ici. Dans cette vidéo, je me concentre sur l'impact climatique de l'utilisation du bois.
C'est super de nous montrer cette comptabilité et ce qui se passe à l'échelle du territoire. Mais moi, j'ai une question un peu plus terre à terre. Est-ce que me chauffer au bois, c'est plus ou moins bien que me chauffer au gaz ou à l'électricité ?
Pour te répondre, le plus simple est que je prenne le temps de développer un exemple et de faire quelques calculs. Pour montrer la dynamique derrière le bois, je dois considérer un temps long, ici 150 ans. Ça rend un peu absurde l'exercice parce qu'il y aura forcément des évolutions importantes à cette échelle de temps que je ne peux pas prendre en compte. Malgré ses limites, mon petit exercice devrait permettre de comprendre pas mal de choses. Commençons avec une parcelle forestière mature, composée d'arbres qui ont un siècle. Les émissions de cette parcelle compensent exactement ses absorptions. Maintenant, je la mets en exploitation. La première année, je prélève 1% de la surface pour me chauffer en m'assurant la présence de pousses pour prendre la relève. Je laisse ensuite ces petits arbres tranquilles jusqu'à ce qu'ils atteignent leur maturité au bout d'un siècle. L'année suivante, je fais la même chose avec un autre centième de la forêt. Au bout d'un siècle, j'ai donc fait une rotation complète et je peux recommencer en exploitant de nouveau la première surface que j'avais coupée. Cette exploitation forestière permet donc d'avoir la même quantité de bois pour toujours. Elle est durable.
Alors, si j'ai bien compris la première partie, pour calculer l'impact climatique, il ne faut pas juste regarder le bois qu'on va chercher dans la forêt, mais aussi ce qu'elle absorbe.
Exactement. Au début, l'absorption nette est nulle, mais les surfaces coupées vont être composées de jeunes arbres en croissance. Les absorptions y sont donc supérieures aux émissions et le différentiel s'accumule dans les arbres qui poussent. Par simplicité, je vais considérer que cette croissance est linéaire, qu'une surface en croissance capte la même quantité de carbone chaque année. Si je trace l'absorption nette par la forêt avec mes hypothèses, on voit qu'elle augmente progressivement au fur et à mesure que cette forêt est mise en exploitation. Au bout d'un siècle, l'absorption nette est à son maximum puisque l'ensemble de la forêt est exploité. toutes les parcelles sont en croissance jusqu'à ce que le bois arrivé à maturité finisse dans ma cheminée. Si je trace les émissions annuelles dues à la combustion de bois, on voit qu'au bout de 100 ans, l'absorption nette compense la combustion du bois extrait de la forêt. On atteint alors une situation de neutralité carbone puisque le CO2 émis par la combustion du bois est exactement égal au CO2 absorbé par la surface de la forêt exploitée. Dans cette situation, on peut poursuivre l'exploitation pour toujours sans effet supplémentaire sur le climat.
Par contre, les premières décennies, on n'était pas à la neutralité carbone.
Effectivement, il y a initialement plus de carbone émis que de carbone absorbé. Si on trace la quantité de carbone séquestrée dans les arbres de ma forêt, on voit que sa mise en exploitation réduit le carbone qu'elle contient. Le carbone perdu par ce stock forestier se retrouve dans l'atmosphère. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que mettre en exploitation une parcelle de forêt ancienne et non exploitée va réduire son stock de carbone. L'exploitation durable d'une forêt ancienne va donc permettre d'atteindre un nouvel équilibre et d'avoir un flux de bois renouvelable, mais au prix d'un ajout initial de carbone à l'atmosphère. C'est cette dynamique particulière qui complique ce sujet et embrouille beaucoup de personnes.
Donc il y a des gens, quand ils réfléchissent au bois, ils se plantent. Ils se plantent sur le bois. Ok, et c'est quoi leurs erreurs ?
Je peux t'en montrer deux. Voici la quantité de carbone ajoutée à l'atmosphère en ne considérant que les émissions induites par la combustion du bois, et donc sans prise en compte de la dynamique de la surface forestière. Cette approche fausse mène à une surestimation du carbone ajouté à l'atmosphère, surtout à long terme. La seconde erreur plus courante est de considérer la combustion de bois comme neutre en carbone sous prétexte qu'une forêt repousse. C'est faux parce qu'un arbre ne pousse pas instantanément. Faire cette erreur amène à sous-estimer l'impact réel de l'exploitation forestière sur le climat et peut servir de moteur à des exploitations irraisonnées.
Maintenant, est-ce qu'on peut enfin répondre à ma question ? Est-ce qu'un chauffage au bois, c'est plus ou moins bien qu'un chauffage au gaz, ou à l'électricité, ou au fioul ? Enfin, est-ce qu'on peut faire une comparaison ?
Allez, c'est parti ! Pour construire les appareils ou exploiter le bois, on a recours à des énergies fossiles. Prendre ça en compte demande de considérer une vingtaine de grammes d'équivalent CO2 par kWh pour le chauffage au bois. Du point de vue des émissions fossiles, le bois s'en sort beaucoup mieux qu'un chauffage au gaz qui se retrouve autour de 270 g de CO2 par kWh. Ici, je vous trace les émissions au fil du temps pour un besoin en chaleur de 10 000 kWh par an. Je vous laisserai un document avec mes hypothèses. Maintenant, pour le bois, je rajoute les émissions nettes de CO2 résultant de la mise en exploitation de la parcelle de mon exemple. Vous voyez que ça change beaucoup de choses. Je peux aussi ajouter un chauffage au fioul et un chauffage avec une pompe à chaleur en me basant sur les calculs d'une vidéo précédente.
On a complexifié le truc, mais on retrouve la dynamique précédente. Une augmentation forte des émissions au début de l'exploitation, et puis ça se calme jusqu'à l'atteinte de la neutralité carbone. Mais par contre, on voit qu'au début, ça augmente plus vite que le gaz et le fioul. T'es sûr de ça ?
Si on regarde les seules émissions de CO2 à la combustion, obtenir 10 000 kWh de chaleur en brûlant du bois implique d'émettre 4 tonnes de CO2. Le faire avec du gaz, 2 tonnes de CO2, avec du pétrole, 2,6 et avec du charbon, 3,5. Si on regarde les émissions directes à la combustion, brûler du bois est pire que brûler des ressources fossiles. S'ajoute à ça un petit effet de différence de rendement puisque les chaudières au gaz sont plus efficaces que des chaudières au bois. C'est pour ça que se chauffer au bois en mettant en exploitation une nouvelle parcelle est pire dans un premier temps que se chauffer avec des ressources fossiles. Mais sur le long terme, le fait que les surfaces forestières exploitées absorbent du carbone atmosphérique permet au chauffage au bois de mieux s'en sortir. Dans la suite, je vais différencier le carbone biogénique issu de la combustion de bois du carbone fossile issu de la combustion de ressources fossiles. Leur impact climatique est le même, seule leur origine est différente.
Dans ton exemple, il faut un siècle pour que le chauffage au bois soit préférable au chauffage au gaz. Ça me paraît vraiment très long.
Ça ne fait aucun doute que les dynamiques forestières sont longues. Mais garde en tête que la réalité est bien plus complexe que mon exemple. Les forêts peuvent être exploitées de différentes manières et elles poussent à différentes vitesses suivant les espèces et les conditions climatiques. J'ai construit mon exemple pour être vaguement représentatif d'une forêt de feuillus non exploitée en zone tempérée. Mais c'est une situation très rare en France. Si on part d'une forêt moins ancienne, le déstockage de carbone initial est moins grand et le croisement des courbes se fait plus tôt. si la forme de la courbe ressemble souvent à ça, le croisement peut se faire plus tôt ou plus tard, suivant le stock de carbone au moment de la mise en exploitation et celui auquel l'exploitation durable se stabilise.
J'ai quand même l'impression que tu essayes de me la faire à l'envers en considérant la mise en exploitation d'une forêt ancienne. En plus, tu viens de dire que c'était pas représentatif. Donc moi, je vais prendre un cas plus représentatif. Je reprends l'exploitation de mon grand-père. Il a une parcelle qu'il exploite déjà, qui est déjà à la neutralité carbone, et je poursuis juste cette exploitation.
Les émissions du chauffage au bois ressemblent alors à ça. Les émissions nettes de carbone biogénique sont nulles parce que la surface de forêt exploitée est à la neutralité carbone. Mais dans cette situation, si tu changes ton moyen de chauffage, tu vas arrêter d'exploiter cette forêt. Qu'est-ce qui se passe alors ?
Ben, la forêt va accumuler du carbone jusqu'à atteindre la maturité. Donc le stock de carbone qu'elle contient va augmenter.
Donc si je veux faire une comparaison qui a du sens dans cette situation, il faut que je prenne en compte que l'adoption d'un autre moyen de chauffage permet de laisser tranquille cette parcelle de forêt. Aux émissions des moyens de chauffage alternatifs, j'ajoute l'absorption de CO2 par la parcelle de forêt dont tu abandonnes l'exploitation en changeant de moyen de chauffage. Comprends bien ce qui se passe ici. Si le chauffage avec une pompe à chaleur se retrouve dans le négatif, ça n'est pas parce qu'utiliser une pompe à chaleur retire du CO2 de l'atmosphère. Mais c'est parce que l'utiliser à la place du chauffage au bois que tu abandonnes permet de laisser tranquille ta forêt qui va pouvoir augmenter son stock de carbone et donc retirer du CO2 de l'atmosphère. Finalement, la conclusion est la même que précédemment. Sur le court terme, continuer d'exploiter cette forêt est la pire solution. Sur le long terme, c'est mieux qu'un chauffage fossile, mais ça reste beaucoup moins bien qu'une pompe à chaleur.
En fait, on a cette discussion, ta vidéo existe parce qu'une forêt se régénère. C'est ça qui complique les choses.
Dans la réalité, ce caractère réversible est plus compliqué que dans mon exemple. Pour qu'une forêt atteigne la maturité, il faut parfois beaucoup de temps. Reconstituer les stocks de carbone dans les vieux arbres, les sols et le bois mort peut prendre plus qu'un siècle. Les forêts créent aussi leurs propres conditions d'existence et rétablir une forêt peut être une tâche difficile, voire impossible si le sol a été dégradé ou si le climat local a changé. La possibilité de revenir en arrière n'existe donc pas toujours. Mais c'est vrai que ce caractère plus ou moins réversible d'un changement d'utilisation des terres est une différence absolument majeure avec l'utilisation de ressources fossiles. Si tu arrêtes d'utiliser du gaz pour te chauffer, la ressource ne va pas se reconstituer. Le carbone émis ne va pas sortir de l'atmosphère. Ce gaz est perdu pour les générations futures et on ne leur laisse que les graves conséquences du CO2 ajoutées à l'atmosphère par sa combustion. Par contre, si tu arrêtes d'utiliser du bois, la ressource va se reconstituer entièrement ou partiellement et la quantité de carbone ajoutée à l'atmosphère par la combustion du bois peut être de nouveau captée par la forêt. Ça peut être un argument pour défendre qu'une utilisation de bois est préférable à une utilisation de ressources fossiles, même dans une situation où les émissions de l'utilisation de bois seraient plus élevées. C'est surtout pour ça qu'on différencie souvent carbone biogénique et carbone fossile. On retrouve cette différence de nature dans la manière dont les émissions de CO2 sont souvent catégorisées.
Je crois qu'on avait un peu parlé de ça dans tes vidéos sur le cycle du carbone. Elles ont pas trop mal vieilli, mais ça remonte un peu, donc je veux bien une piqûre de rappel.
Quand on regarde les travaux scientifiques sur les émissions historiques de CO2, on voit qu'elles sont séparées en deux catégories. Les émissions fossiles et de l'industrie viennent de la combustion de ressources fossiles et de certains procédés industriels. Les émissions provenant du changement d'usage des sols englobent tous les changements de stock de carbone quand des activités humaines modifient des surfaces. Elles sont principalement dues à la déforestation. Les émissions de CO2 sont ici séparées en fonction du stock duquel le carbone est issu, entre carbone fossile et carbone biogénique, et donc entre émissions irréversibles et émissions au moins partiellement réversibles.
Mais entre les deux, là, ça n'est pas du tout la même dynamique. Les émissions fossiles augmentent fortement.
Oui, puisque la consommation annuelle de ressources fossiles a fortement augmenté au cours des dernières décennies. Les émissions du secteur des terres sont, elles, relativement constantes sur une longue période, ce qui indique une déforestation continue des surfaces terrestres au niveau mondial. Attention, ça n'est pas vrai en France et en Europe où on est dans une dynamique d'augmentation du stock de carbone forestier. La France métropolitaine était principalement couverte de forêts il y a 8000 ans. Elles ont été progressivement remplacées par des champs et des pâturages jusqu'à atteindre un minimum autour de 1830, où elles ne couvraient plus que 16% du territoire. Depuis, l'exode rural et l'amélioration de l'efficacité de l'agriculture ont mené à l'abandon des terres agricoles les moins productives. Des forêts ont également été plantées, permettant de remonter à 32% de surface de forêt en France métropolitaine. Donc, si on a des forêts en croissance aujourd'hui, c'est parce que notre territoire a été massivement déforesté il y a longtemps. D'autres pays n'ont pas cet héritage historique et se retrouvent à déforester pour étendre leurs terres agricoles ou leurs infrastructures, ce que nous avons fait bien avant eux. C'est quelque chose à garder à l'esprit quand on regarde la déforestation à l'autre bout du monde.
C'est vrai que c'est un peu facile de pointer du doigt ceux qui déforestent aujourd'hui quand on est sur un territoire largement déforesté dans le passé, dont on exploite les surfaces rendues disponibles.
Et à ça, on pourrait ajouter qu'une partie de la déforestation ayant lieu en dehors de notre territoire est liée à notre consommation. Par exemple, de chocolat. Aïe. Je ne vais pas me lancer sur la question de la déforestation et de la déforestation importée, mais je pense qu'il faut avoir conscience que les différences de dynamique entre régions du monde sur la question de la déforestation proviennent aussi d'un héritage historique. La France a des forêts aujourd'hui en croissance parce que c'est un territoire qui a été fortement déforesté et qui se reboise suite à l'abandon des terres agricoles les moins productives.
Et ça change quoi dans ton exemple si on plante une forêt sur un champ ?
Cette forêt stockera plus de carbone que le champ qu'elle remplace. Planter une forêt permet de retirer du CO2 de l'atmosphère. Et c'est vrai même si cette forêt est exploitée une fois qu'elle a suffisamment poussé. Par contre, cette forêt peut stocker plus de carbone si on ne l'exploite pas. On se retrouve donc dans une situation similaire à mon exemple précédent. Il faut choisir entre une exploitation forestière pour se chauffer ou un moyen de chauffage alternatif qui permet de laisser cette nouvelle forêt tranquille pour qu'elle accumule, sur le long terme, encore plus de carbone. Donc même dans cette situation, la question de l'impact climatique de l'exploitation du bois se pose toujours.
Ok, il y a un dernier truc qui m'intéresse. On a vu dans la première partie que faire des produits en bois, c'était cool. Genre, c'était mieux que de brûler le bois direct. Est-ce que ça, tu peux nous le montrer dans ton exemple ?
Je vais intégrer ça à mon premier exemple que je pense plus lisible. Je vais considérer que la moitié de la quantité de bois précédemment utilisée va servir à produire des produits bois avec 30 ans de durée de vie. L'autre moitié est constituée de pertes ou de bois inutilisables par l'industrie et directement brûlé. Pour compenser le bois énergie manquant par rapport à mon exemple précédent, on utilise du gaz fossile. En scénarisant ainsi, je prends en compte que la ressource en bois est limitée et je garde la même surface exploitée que dans l'exemple précédent. Au bout de 30 ans, les produits en fin de vie sont intégralement brûlés et on n'a donc plus besoin de recourir au gaz, puisque la moitié de la récolte annuelle plus les produits bois arrivant en fin de vie couvrent tous les besoins de chauffage. C'est un scénario un peu optimiste, puisqu'il est improbable qu'on puisse tout récupérer à la fin de vie des produits. Mais bon, je fais simple. Pour l'instant, j'ai seulement pris en compte l'effet d'avoir un stock de carbone sous forme de produits bois, ce qui diminue la quantité de carbone que la mise en exploitation de cette parcelle forestière ajoute à l'atmosphère. Tu vois que cet effet de stock apporte déjà un gain en termes d'émissions cumulées, malgré l'utilisation de gaz fossiles des premières décennies.
Donc ça, c'est juste l'effet stock de tous nos trucs en bois. Mais ça fait quoi si tu ajoutes en plus la substitution dont tu nous as parlé ?
Si je considère qu'un kilo de carbone dans des produits bois permet d'éviter l'émission de 0,6 kg de carbone fossile, ça donne ceci. Tu vois que la différence est vraiment impressionnante. Cette situation est devenue fortement préférable au chauffage, au gaz ou au fioul. Mon exemple ne peut pas représenter la diversité des produits bois et la complexité du sujet. Changer la durée de vie du produit change l'aspect des courbes et c'est encore plus vrai si je change le facteur de substitution. Il y a aussi des choix méthodologiques dont on pourrait discuter. Je ne peux pas prétendre à la perfection avec un exemple tout simple sur un sujet très compliqué. Mais cette dernière partie de mon exemple me permet de te faire comprendre pourquoi la littérature scientifique et technique montre que l'utilisation de bois comme matériau est préférable à une utilisation énergétique directe. Elle a dans la majorité des cas des bénéfices climatiques importants et à bien plus courte échéance que l'utilisation exclusive de bois pour le chauffage.
Mais le bois, on peut aussi en faire de l'électricité, non ? Est-ce que c'est un sujet, ça ?
La production de chaleur est l'utilisation majoritaire du bois énergie, ce qui justifie de se concentrer sur la question du chauffage au bois. la production d'électricité à partir de bois n'est pas vraiment un sujet en France, mais tu en as peut-être entendu parler dans le cadre de la conversion au bois de la centrale au charbon de Gardanne. À l'international, c'est par exemple l'énorme centrale électrique de Drax qui fait parler d'elle en important massivement du bois des États-Unis. Je pourrais refaire un petit modèle, mais je préfère te montrer une publication scientifique sur le sujet. Ici, on regarde les émissions associées à l'utilisation du bois pour de la production électrique. Ce bois serait issu de plantations forestières qui remplaceraient des forêts naturelles boréales canadiennes. Le résultat peut être différent avec d'autres espèces et d'autres climats. Tu vois qu'on retrouve la même forme que dans mon exemple avec de fortes émissions associées à la mise en exploitation de forêts inexploitées, puis un plateau une fois que la surface exploitée atteint la neutralité. Sont également représentées les émissions associées à une production électrique à partir de gaz, de pétrole ou de charbon. Dans le cas particulier de cet article scientifique, tu vois qu'il faut respectivement attendre 155, 200 et 356 ans pour que produire de l'électricité à partir de bois ajoute moins de CO2 à l'atmosphère que la produire respectivement à partir de charbon, de pétrole ou de gaz. C'est donc un temps très long pour que cette exploitation énergétique du bois soit pertinente d'un point de vue climatique.
Ça me paraît moins bien que le chauffage. Je sais, il y a cet argument biogénique, ça peut repousser et tout, mais quand même, 356 ans pour faire mieux que du gaz, c'est pas fou.
Cette étude montre une situation où l'impact climatique est pire que dans mon exemple, et ça vient probablement des forêts étudiées. Mais même à forêt équivalente, la production électrique s'en sort généralement moins bien que la production de chaleur, parce que le rendement d'une centrale électrique au bois est moins bon que celui des centrales électriques fossiles. Une manière de s'en sortir serait d'y ajouter des technologies de capture et séquestration de carbone, approche que l'on désigne sous le nom de BECCS et dont on a déjà un peu parlé dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, cette solution n'est pas ou peu déployée sur des centrales au bois et pose de nombreux problèmes. Une manière plus opérationnelle d'améliorer un peu ce bilan est de faire de la cogénération, c'est-à-dire d'avoir une centrale qui produit électricité et chaleur, ce qui permet d'améliorer l'efficacité par rapport à une production exclusive d'électricité.
C'est bien de ne pas couper cette complexité et de laisser tous les sujets sur la table. Mais quand même, cette production électrique avec du bois, on peut dire que c'est pas fou.
La production exclusive d'électricité à partir du bois semble une mauvaise idée, surtout vu les alternatives bas carbone existantes comme les centrales nucléaires, les éoliennes ou les panneaux photovoltaïques. En particulier, la conversion de centrales au charbon en centrales au bois a suscité une levée de boucliers de scientifiques et de défenseurs de l'environnement. Cette possibilité est découragée, à raison, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route énergétique de la France. En France, on ne brûlera pas ou très peu de bois pour produire exclusivement de l'électricité.
C'est bien, on a vu des belles dynamiques et tout ça. Mais si je veux comparer avec des alternatives et que je veux, pour du chauffage ou de la production électrique, une valeur par kilowattheure, je prends combien pour le bois ?
Si on regarde les quantifications données par exemple par l'ADEME pour le chauffage au bois, on trouve des estimations autour d'une vingtaine de grammes de CO2 par kilowattheure. Ce sont des estimations en analyse du cycle de vie qui devraient prendre en compte l'ensemble des émissions. Mais quand on regarde dans les détails, on voit que les émissions de CO2 biogéniques ne sont pas prises en compte. C'est justifié en disant qu'en France, il y a peu de déforestation et que les prélèvements de bois sont en deçà de l'accroissement forestier annuel. Ces deux informations sont exactes. Mais cette justification est bancale. La croissance des forêts françaises n'empêche pas une exploitation d'ajouter du carbone à l'atmosphère par rapport à l'absence d'exploitation. Et si on parle d'une exploitation existante, arrêter cette exploitation permet de retirer du CO2 de l'atmosphère en laissant les parcelles exploitées accumuler davantage de carbone. En bref, je pense que mes exemples permettent de comprendre pourquoi ces quantifications donnent une mauvaise vision de l'impact climatique du bois.
Ça arrive de donner des mauvaises quantifications. Je suis sûr qu'on peut en trouver dans tes vidéos d'ailleurs. Donc ce qui m'intéresse, c'est plutôt de savoir des erreurs de ce type. Il y en a beaucoup ?
Oui, quasiment toutes les estimations qu'on trouve sur la question du bois présentent les mêmes travers. C'est aussi le cas par exemple de ces quantifications issues d'un rapport de RTE sur les émissions en analyse du cycle de vie des moyens de production électrique. Et c'est problématique parce qu'ignorer les dynamiques au niveau des surfaces forestières amène à sous-estimer considérablement l'impact climatique de l'utilisation du bois. En exagérant l'intérêt du bois dans la lutte contre le changement climatique, elles peuvent amener à des utilisations irraisonnées de cette précieuse ressource.
Pour défendre les quantifications que tu as montrées, j'ai l'impression que l'impact climatique du bois, il dépend pas mal de la situation en fait. Donc on ne peut pas donner une quantification passe-partout.
C'est vrai que l'impact climatique dépend fortement de la situation de départ et de la manière dont les surfaces forestières sont exploitées. L'impact climatique n'est pas du tout le même entre une ancienne forêt qu'on vient définitivement raser et une plantation d'arbres qui vient remplacer une terre agricole. Une évaluation correcte ne peut donc pas échapper à une scénarisation. Mais même en connaissant bien la situation, il reste un problème. Si je reviens à mon premier exemple, les émissions par kilowattheure seraient de 500 grammes de CO2 la première année et d'une vingtaine au bout d'un siècle. Mais si on peut avoir des émissions si faibles sur le temps long, c'est parce qu'on a mis la forêt en exploitation et donc initialement émis du CO2.
Pour s'en sortir, on peut peut-être juste faire une moyenne sur une période.
Bonne idée, mais ça ne donne pas le même résultat suivant la période que je considère. Si je fais la moyenne sur 30 ans, j'obtiens 440 grammes de CO2 par kilowattheure. Et si je fais la moyenne sur un siècle, j'obtiens 270 grammes de CO2 par kilowattheure. Bref, on ne peut pas rendre la dynamique que je t'ai montrée avec une seule valeur. On est obligé de faire un choix et de donner une valeur potentiellement trompeuse. C'est pour ça que les estimations d'émissions par kilowattheure que tu trouveras sur cette question peuvent t'induire en erreur. Une valeur n'est représentative que d'une situation donnée et pour un horizon temporel qu'il faut choisir.
Donc l'évaluation change en fonction de la période que tu considères. Mais on prend combien du coup? C'est quoi le mieux?
Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si on veut utiliser ce type d'approche pour trancher la pertinence d'une utilisation du bois, le choix de l'horizon temporel considéré est un choix politique. La directive européenne sur le sujet impose par exemple que les émissions liées au changement d'usage d'une parcelle soient amorties sur une période de 20 ans dans les bilans carbone. Fixer la période permet de calculer l'impact climatique d'une utilisation des sols dans un scénario donné et la comparer à des alternatives. Le choix politique de 20 ans est là pour limiter la destruction de forêts en ne permettant des changements d'usage des sols que lorsque le bénéfice climatique est rapide. Ce choix politique est également là parce qu'il y a d'autres solutions que la biomasse pour produire électricité et chaleur. S'il n'y avait le choix qu'entre biomasse et ressources fossiles, la période considérée serait peut-être différente. Parce qu'il paraîtrait étrange de se condamner à long terme pour éviter un surplus d'émissions à court terme. Un horizon temporel relativement court est donc la conséquence de l'existence d'alternatives et de l'urgence climatique qui nous pousse à déployer des solutions efficaces le plus vite possible.
Du coup, c'est possible de donner une quantification. Faut juste se mettre d'accord sur le scénario et sur la période considérée.
Effectivement, mais les études qui ont cette approche sont rares. J'ai quand même trouvé une étude de l'ADEME qui tente le coup. On peut d'ailleurs y lire que l'approche déployée est considérée comme innovante et exploratoire. Et qu'elle ne prétend pas être représentative de l'exploitation de bois en France. On y trouve des estimations correspondant à différents scénarios et évaluées à chaque fois sur une période de 30 et de 100 ans. Sur un siècle, les émissions sont plus proches de zéro que sur 30 ans, puisque la modification initiale est répartie sur une plus longue période. On retrouve donc la dynamique qui nous a longuement occupés.
Et est-ce que tu peux en dire un peu plus sur les scénarios considérés?
Ce serait long de le faire bien et ça me demanderait de mieux comprendre les différentes pratiques forestières. La première famille concerne l'évolution de la gestion d'une parcelle. Les évaluations sont plus faibles que mon exemple parce que l'étude ne part pas d'une forêt mature avec un gros stock de carbone, mais étudie des ajustements dans une forêt déjà exploitée. La seconde famille concerne une récolte accrue en récupérant des parties qui sont laissées au sol dans l'approche de référence. Sur ce point, notons que l'étude a ses limites et ne prend pas en compte, par exemple, le carbone stocké dans les sols, les impacts du changement climatique et les conséquences sur la biodiversité. Ces aspects, dont on parlera davantage dans la prochaine vidéo, peuvent remettre en question les propositions de récolte accrue des souches et menus bois. La troisième famille concerne la mise en place de différentes plantations sur des terres abandonnées par l'agriculture.
Je me souviens de ce qu'on a vu avant, donc je sais que dans ce dernier cas, c'est négatif parce qu'une forêt, même exploité, stocke plus de carbone qu'un champ.
Exactement. Mais comme expliqué plus tôt, ce qui m'intéresserait dans cette situation serait la comparaison entre ce type d'exploitation productive et une situation où un moyen de chauffage alternatif permet d'utiliser cette surface pour stocker davantage de carbone dans une forêt qu'on laisse vieillir. Ce qui nous limite pour planter des forêts, c'est la place disponible. Et se chauffer avec une pompe à chaleur demande nettement moins de surface que se chauffer au bois, même en prenant en compte la production d'électricité nécessaire.
Ton étude là, je suis pas sûr qu'elle m'aide. Je ne sais toujours pas quelle valeur retenir, genre en CO2 par kilowattheure, pour juger de l'impact climatique du bois.
Je te déconseille de trop t'attacher aux quantifications de mes modestes exemples. Je les ai développés pour te faire comprendre les dynamiques à l'œuvre, mais c'est un modèle simpliste. Quant à cette étude, elle est plutôt claire sur son caractère exploratoire, ses limites et ses incertitudes. Elle montre au moins très clairement que l'évaluation de l'impact d'un chauffage au bois peut varier considérablement entre deux situations. C'est encore plus frustrant pour moi que pour toi, mais je ne peux pas fournir une valeur représentative. L'impact climatique d'une utilisation du bois ne peut se calculer que dans une situation donnée et au prix de nombreuses hypothèses et de choix méthodologiques. Et cet impact varie considérablement entre plusieurs situations.
Mais arrête de te défiler, je veux une réponse claire. Ok, je veux un chauffage au bois. Tu m'encourages ou tu me dissuades?
D'abord, pour te répondre, il faudrait prendre en compte des aspects qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je t'invite donc à la regarder quand elle sortira, parce qu'elle amènera d'autres éléments importants dans ton éventuel choix. Si je me concentre sur la seule question climatique avec mes connaissances sur le sujet et mes valeurs, j'essaierai plutôt de te convaincre d'adopter une pompe à chaleur et mes exemples peuvent te faire comprendre pourquoi. Mais si tu hésites entre un chauffage au bois ou au gaz, je te pousserai vers le bois, parce que c'est généralement meilleur sur le long terme et que la combustion de ressources fossiles a un caractère irréversible que l'exploitation d'une forêt n'a pas ou beaucoup moins. En plus, l'utilisation de bois comme matériau est intéressante et on verra dans la prochaine vidéo qu'elle est complémentaire, dans un certain volume, avec une utilisation énergétique. Et maintenant, je pense qu'il est temps de conclure. La combustion de bois émet plus de CO2 par unité d'énergie que le charbon ou le gaz. L'intérêt climatique du bois n'est donc pas évident et son évaluation ne peut se faire qu'en prenant en compte la dynamique des surfaces exploitées. Il est faux de croire que l'utilisation de bois est forcément neutre en carbone. L'impact climatique du bois varie fortement d'une situation à une autre en fonction des caractéristiques de la parcelle et se réfléchit en prenant en compte les alternatives existantes pour la production d'énergie ou de matériaux. La mise en exploitation d'une forêt ancienne est généralement une mauvaise idée puisque le déstockage de carbone initial mettra longtemps à être rentabilisé. A l'inverse, le boisement de surfaces abandonnées par l'agriculture permet un stockage de carbone, même dans une situation d'exploitation. Mais moindre qu'un boisement qui aurait pour seul but le stockage de carbone. Donc même cette situation ne nous dédouane pas d'une réflexion sur les alternatives au bois. Parmi les éléments les plus solides de cette vidéo, on a vu qu'il est plus pertinent d'utiliser le bois sous forme de matériaux plutôt que pour une utilisation énergétique exclusive. On fait alors d'une pierre deux coups, on stocke du carbone dans des produits bois et on évite l'utilisation de matériaux qui sont souvent plus polluants. On a aussi vu que la capacité des surfaces forestières françaises à absorber du CO2 s'essouffle déjà sous le coup des sécheresses, des crises sanitaires et dans une moindre mesure de la hausse des prélèvements. Les conséquences du changement climatique sont à prendre en compte dans l'évolution de la gestion forestière. Mais le climat n'est qu'une pièce du puzzle. Pour avoir une vision plus juste, il nous reste à discuter d'autres éléments comme les différents appareils, les différentes formes de combustible, les bons conseils pour bien utiliser un chauffage au bois, les volumes de bois utilisés et disponibles, la pollution de l'air induite par la combustion de bois ou la prise en compte de la biodiversité dans l'exploitation forestière. Je travaille sur une seconde vidéo qui aborde entre autres ces aspects et dont l'écriture est bien avancée. Bravo à vous qui avez regardé jusqu'au bout. J'avais préparé une grosse vidéo sur le bois, mais elle était vraiment beaucoup trop longue, on parle de plus d'une heure et demie, donc j'ai choisi au dernier moment de séparer le texte en deux pour en faire deux vidéos plus digestes et relativement indépendantes. J'espère avoir fait le bon choix et que la quasi-absence de lecture sur ces versions définitives ne laissera pas trop d'erreurs, d'approximation et d'incompréhension. Concernant cette vidéo, je voulais traiter depuis très longtemps la question de l'impact climatique du bois et plus généralement des logiques utilisées dès qu'on touche à la comptabilité carbone dans le secteur des terres. C'est un sujet complexe, rarement expliqué et encore plus rarement compris. Pourtant, il joue une place primordiale quand on veut comprendre l'impact climatique du bois et plus généralement de la biomasse. J'espère que ma vidéo permettra d'y voir un peu plus clair sur ce sujet. En tout cas, j'ai fait au mieux et je peux vous dire que ça m'a pris du temps et de l'énergie. Merci aux relecteurs qui me permettent de limiter les erreurs, merci Michael pour son admirable montage et surtout, surtout, merci à ceux qui soutiennent financièrement ce travail sans aucune contrepartie. C'est grâce à eux que ce contenu existe et qu'il est accessible à tous. C'était Le Réveilleur et à bientôt sur le net.